Et bienvenue dans le Paris Central Show. On va parler de l'avant-match, mais pas que. On a quelques sujets à aborder juste après l'avant-match. On est avec Dryas, on est avec Ludo, on est avec Kevzor. Salut à tous qui nous regardez depuis partout dans le monde. On va commencer direct avec les pronos. Dryas, c'est quoi ton prono pour demain et pourquoi ?
4 de Paris, parce que mine de rien, Marseille, ils sont revanchards avec la semaine qu'ils ont eue. En plus, le match nul, là, ça leur a donné le mort de faim. Ils vont vraiment essayer de faire quelque chose, mais en même temps, derrière, c'est tellement naïf, ça ouvre tellement d'espace. Et avec un Mbappé, tu vas les punir. Et donc, je les vois bien marquer, je les vois bien arriver à faire plier notre défense, être les premiers, mine de rien, à créer des déséquilibres derrière. Mais tellement exploitable que je vois un match avec beaucoup de buts. Après, c'est mon côté optimiste, j'ai envie de voir un feu d'artifice, donc je dis 4-2 pour Paris.
Kevzor ?
Moi, je dis 2-1. Honnêtement, je pense que ça va être un match compliqué. On sait comment Marseille joue face à nous. On a quand même, dernièrement, pas mal de difficultés à les battre. Et même si l'année dernière, on leur a mis un gros score après la Coupe de France, je pense qu'en fait, ils vont encore sortir le match de leur vie. Ça va être un match serré. Mais je vois victoire de Paris sans appel.
Lolo ?
Moi, je vois un 3-1. Je vois un 3-1 avec un Marseille qui va essayer d'être sur la même dynamique que ce qu'ils ont produit contre Amsterdam, contre l'Ajax. Mais je pense que le match qu'ils ont eu dans la semaine va leur peser dans les jambes. Ils n'ont que 2 jours de récup, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Comme dit Dryas, c'est très, très, très naïf à l'image de Mbemba ou même de Balerdi, où ça offrait énormément d'espace à l'Ajax en première et deuxième mi-temps et ils auraient pu les tuer facile. Donc je vois bien un 3-1 pour Paris. Et en soi, un match assez accroché en début de match et puis après, derrière, physiquement, on prend le dessus et on arrive à les terminer avec les espaces et les boulevards qui vont se faire.
Ok, moi je vais faire, je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir cette ref, mais vous vous rappelez du mec qui n'arrêtait pas de dire la mer noire jusqu'à ce qu'il ait la bonne réponse.
Ouais.
Ça ne vous dit rien ? Bah, ouais. Moi, ça fait 3 matchs que je dis 3-1, donc je vais continuer à dire 3-1. Et un de ces 4, ça va passer. Moi, je dis encore 3-1 pour le Paris Saint-Germain face à Marseille. J'avais 2 buts d'écart face à Dortmund, mais je n'avais pas le score exact. Mais là, on va rester sur 3-1, ça va finir par passer. L'Oréal, ouais. Quel 11 face à Marseille, est-ce qu'on prend le même 11 que Dortmund ou on fait tourner ? Est-ce qu'il y a un ou deux joueurs que tu voudrais voir tourner pour voir autre chose ?
Dans la logique, j'aimerais continuer sur la même compo que ce qu'on a vu contre Dortmund. Pour rester dans la continuité, donc en défense centrale, sur les côtés, ça ne bouge pas. Hakimi, Hernandez, dans l'axe, Skriniar, Marquinhos. Au milieu terrain, ça ne bouge pas. Vitinha qui continue à prendre encore un peu plus de galons au milieu de terrain. Warren, ça reste toujours très bien. Ougarté aussi. Dembélé, Mbappé. Après, la question du numéro 9. Dans le choix de la continuité, je dirais bien sûr Kolo Muani. Après, peut-être face au profil que tu vas avoir, ça va être des défenseurs qui vont être un petit peu plus rugueux. Où tu auras peut-être besoin de tenir un peu plus le ballon, que ce soit techniquement. Kolo Muani, c'est pas forcément l'assurance tout risque au niveau technique, ballon dans les pieds, dos au but. Donc, j'ai peut-être un petit doute sur ça, mais dans la logique des choses, j'aimerais bien continuer sur le même aspect, c'est-à-dire on reste sur la même compo, tu continues à donner de la confiance. Kolo Muani, ça va aller au fur et à mesure des matchs, donc il va falloir qu'il s'habitue aussi au système, au jeu, puisqu'il est dans une équipe de transition, donc ça va être un petit peu plus, ça va être autre chose. Donc, non, moi, je continue sur le même 11 que contre Dortmund.
On t'entend pas, Nix.
On t'entend pas, ouais.
Oui, MX, la liste des blessés semble être la même. Kimpembe, toujours pas. Nuno Mendes, j'ai vu qu'il voulait prendre le temps avec lui, qu'il ne revienne pas pour faire une rechute. Et Mukiele était dans le groupe mardi, donc peut-être qu'il va gratter du temps de jeu. Je te laisse continuer, Kevzor, et quel 11 pour toi ?
Moi, je pense que ce sera le même 11 avec Ramos à la place de Kolo Muani. J'ai l'impression qu'il va quand même, pour le moment, démarrer un espèce de turnover entre les deux pour voir qui va se démarquer le plus. Donc, je pense que ce sera le même 11 avec Ramos.
Et toi, Dryas ?
Rapidement, il y a une petite question. Est-ce que l'OM viendra avec le bus? Je pense pas, parce qu'ils savent pas jouer avec le bus, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'ils savent faire. Ils ont pas forcément l'habitude. Et sinon, pour moi, j'ai vraiment pas aimé, moi, Kolo en neuf contre Dortmund. Alors, c'est un premier match, mais par contre, j'ai vu quelque chose de rédhibitoire dans un neuf, dans un rôle d'un petit peu neuf positionnel. C'est la faiblesse de ses appels. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire des appels quand il part de loin, mais être capable de faire des appels croisés pour attirer les défenseurs, pour ouvrir des espaces pour les autres, j'ai vraiment pas vu ces qualités-là. Et j'ai vraiment du mal à le voir, en fait, en neuf, en fait, maintenant, fait avec trois attaquants. Alors après, on va voir ce que ça va donner sur la suite. Hein. C'est qu'un seul match. Encore une fois, je l'enterre pas non plus sur les ailes. Je vais pas tirer de conclusion après un match, mais pour l'instant, j'ai un peu plus envie de voir de Ramos, qui pour moi a vraiment plus les qualités du neuf, tel qu'on l'attend dans le système dans lequel on joue. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça va être le cas? Ce qu'on voit, c'est que Kolo a été préféré pour Dortmund. La veille de Dortmund, l'équipe avait dit que normalement, ça devrait être Ramos parce que Kolo était encore en phase de reprise. Là, pareil, l'équipe dit que ça devrait être Ramos pour des raisons de turnover, mais j'en suis pas sûr. On va voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur de cette espèce d'attaque de l'équipe de France qui prenne un peu le pas. Et je crois qu'on pourra avoir une première réponse avec la composition pour demain. Et sinon, pour le reste du 11, ce serait tentant de voir Barcola, mais Barcola, pour l'instant, il faut lui laisser le temps. Il va y avoir le temps de faire tourner. Dembélé n'est pas satisfaisant pour l'instant, même s'il apporte des choses très intéressantes. On attend tous un petit peu plus, mais il a encore ce temps d'avance. Et je pense que dans le 11, on a encore besoin, même s'il y a des titulaires qui se dégagent, notamment au milieu, on a encore besoin de confirmer des choses au niveau du temps de jeu. Ce sera plus contre Clermont qu'on commencera à faire tourner.
Kevzor, il y a Carnito qui nous pose une question. Il nous dit, quel joueur devra sortir au milieu si jamais on devrait faire un turnover à ce niveau-là?
Là, on a Kangin qui est parti. Donc, je pense que le turnover au milieu de terrain se fera avec Fabian Ruiz et Carlos Soler. Et de toute façon, ce sera en fonction de l'état de forme. C'est une question qui est bateau, parce que si Ugarte est fatigué ou blessé, si Warren est fatigué ou blessé, si Vitinha est fatigué ou blessé, donc ça dépendra de ce que le coach verra à l'entraînement, simplement.
Ok. Dryas, on a un OM qui est en crise. Est-ce une bonne chose ou est-ce faut faire attention avec un petit flashback de l'OM avec qui était venu avec Semino? Et qui ça s'était pas forcément bien passé. Donc, est-ce que tu penses qu'on est sur un scénario similaire ou est-ce qu'on va les pousser au fond du trou vu qu'ils sont déjà au bord?
Pour moi, c'est Lolo qui a dit la clé, quoi. C'est la fatigue et ça va être la deuxième mi-temps où ça va vraiment s'ouvrir. Maintenant, en première mi-temps, surtout avec le match nul contre l'Ajax, ils vont être revendicatifs. C'est un match contre Paris, ça reste un match particulier, ils reçoivent des DM, des machins, des trucs, etc. Les joueurs le savent. Donc sur le terrain, la crise qu'il y a autour du club, d'ailleurs c'est assez hallucinant ce qui s'y passe, hein. Faut souhaiter que ça se passe pas partout, dans tous les centres de formation, parce que ce qui se passe là-bas, ça dépasse l'entendable. Mais toujours est-il, malgré la crise, je pense qu'ils vont venir ultra revanchards, avoir envie de montrer que justement, l'extra-sportif, ça reste l'extra-sportif, que le sportif reste le sportif. Et comme Lolo en a nommé tout à l'heure, je pense qu'en deuxième mi-temps, par contre, avec les deux jours de récupération, ça va commencer à être plus dur. Par contre, comme je disais, ouais, je les vois bien dans un premier temps être la première équipe à vraiment nous mettre à mal défensivement. Pour l'instant, à l'heure actuelle, sur la saison, on a Nice, on s'est pris des buts, mais j'ai pas vraiment eu l'impression d'être mis à mal défensivement. Et j'ai l'impression qu'avec Marseille, on va se prendre quelques petites accélérations qui risquent de faire assez mal.
Lauriane, je te pose la même question. Bonne chose ou attention?
Attention quand même. La saison où ils viennent nous battre au Parc en faisant un match dégueulasse sous Tourelle, si je me souviens bien, ils n'étaient pas si bien que ça en championnat. Pour moi, il y a un commentaire qui est passé là, comme quoi le Poncho, là, le nouveau coach marseillais en attente peut-être d'un futur vrai coach, va jouer beaucoup sur la fibre marseillaise. Ça, pour moi, je suis sûr et certain. Ils vont vouloir tout faire pour. Je trouve que ça reste quand même talentueux offensivement, même s'il va leur manquer Ismaël Assar. Donc avec Ndiaye, ça peut faire du mal dans les 1 contre 1, ça peut faire du mal niveau vitesse, ça peut c'est intelligent aussi dans le jeu. On sait très bien qu'Aubameyang, avec sa vitesse, il peut aussi faire mal en 1 contre 1 à Skriniar, même si Marquinhos va être là pour épauler. Pour moi, je pense que ça va jouer vraiment sur l'aspect physique, l'aspect émotionnel aussi. Est-ce que nous, dans les moments où ça va être un petit peu plus compliqué, on va savoir garder notre calme et savoir être aussi fort dans les temps faibles, ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Nice. Et là où Mofi a énormément pris l'ascendant sur le plan physique de nos défenses, mais aussi sur le plan psychologique, même si voilà, on sait très bien le match, comment il s'est déroulé. Danilo était là, enfin voilà, c'était pas la même composition. Donc voilà, va falloir quand même faire très attention à cette équipe marseillaise. Moi, je les ai vus contre l'Ajax, c'était faible défensivement, mais ils ont quand même produit offensivement et ils avaient largement de quoi s'imposer, comme ils avaient aussi largement de quoi perdre. Donc ça reste une équipe qui est très dangereuse, qui c'est un classique, donc va falloir se donner à 300%, 500% pour pouvoir essayer de gagner, quoi.
Je pense juste, tu veux juste répondre et après je laisse la parole à Kev. Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est pas un match à prendre autrement que très au sérieux. Mais je pense qu'une fois que tu l'as pris au sérieux, justement, pour la raison que tu as nommée avec les faiblesses, les largesses qu'il y a derrière, et quand on connaît la structure et la manière de jouer de nos attaquants, ça a tout de la bête punitive en deuxième mi-temps. Enfin, l'expression est peut-être pas la bonne, mais j'arrive pas du coup. Tu rentres dans le pied, si tu rentres dans le match avec le bon mindset où tu vas pas pour te faire punir, en fait, j'ai du mal à avoir peur en fait. En deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'ils vont s'effriter.
Kevzor, bonne chose ou attention?
Non, mais en fait, quand l'OM était en difficulté, ils ont toujours réussi à venir nous faire chier. Donc, on sait très bien que le coach, entre guillemets, intérimaire, va jouer sur l'aspect émotionnel des joueurs, sur. En fait, il va tout faire pour que les mecs fassent une entame de match de fou. Et même si leur seconde mi-temps risque d'être un peu difficile physiquement, en fait, on sait très bien que si tu viens à la mi-temps à 0-0 ou si tu viens à marquer un but en début de seconde mi-temps, tu peux vite être en sur-régime parce que c'est le cerveau qui va contrôler ton corps, même s'il est fatigué. Donc, en fait, pour moi, il va falloir faire une très, très bonne première mi-temps et surtout ne leur laisser aucun espoir de récupérer des points. Donc, là-dessus, c'est important. Tu vois, là, tu as quand même un déséquilibre sur le papier, que ce soit sur l'aspect de la forme et sur l'aspect individuel. Mais aujourd'hui, ce genre de match, ben, il faut les prendre et mener rapidement au score. Plus tu vas tomber dans un faux rythme, plus tu vas laisser d'espoir à l'adversaire, plus en fait ça va s'équilibrer sur le terrain. Donc, c'est important. Et par contre, je voulais, par rapport à ce que Drias a dit, pas forcément d'accord parce que contre Lyon, on a quand même subi en première mi-temps énormément de situations ou d'occasions de but où Donnarumma nous sauve. Donc finalement, je trouve que défensivement, contre Lyon, on a eu quand même quelques lacunes, mais pas que défensivement. En fait, c'est sur la structure de l'équipe où j'ai trouvé certains comportements de joueurs un peu attentistes. Donc voilà.
Lyon, c'était à double tranchant. T'avais, comment il s'appelle cet ailier qui était formidable, Nouméa, ou je ne sais plus exactement. Hein?
Noama.
Nouama, voilà. Pas Nouméa, Nouama et Cherki, qui étaient pour une fois mieux positionnés, qui effectivement nous ont vraiment mis en difficulté. Et c'est vrai, justement, c'est le genre de truc qu'on pourrait attendre. Avec Marseille, mais tu avais aussi, bah, comme tu l'as dit, c'est plus des. Je trouve que collectivement, vraiment, une des choses qui est notable, et ça se vérifie aussi hein, peut-être un peu contre Lyon, c'est notre capacité à la récupération, à la récupération haute, et ça, c'est quelque chose d'assez constant. Et je trouve qu'on cède pas tant que ça. Et à l'arrivée, si tu regardes les matchs, alors peut-être. Marseille, enfin contre Lyon, je me souviens moins bien. Je me souviens effectivement d'avoir été pris de vitesse et comme le rappelait Lolo, c'est Danilo qui l'explique beaucoup. Mais je trouve que structurellement, en tout cas, on offre quelque chose quand même qui est vachement satisfaisant cette saison par rapport à ça. Cette capacité à récupérer vachement haut. Et je pense que je l'avais vu aussi contre Lyon, si je me souviens bien.
Ouais, mais après quand.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Non, je disais que contre Lyon, on a quand même, pour moi, on a quand même. C'était un des matchs où moi, le score était pour moi quand même relativement flatteur. Parce qu'au niveau des stats, je suis en train de revoir, on a quand même subi 19 tirs, 8 tirs cadrés, alors qu'habituellement, sur la totalité des autres rencontres, on subissait que très peu de tirs. Sur les 8 tirs cadrés, on a Donnarumma qui nous fait 4 ou 5 énormes parades qui n'auraient peut-être pas eu lieu sous, avec un autre gardien. Donc voilà, c'est quand même important de souligner que contre Lyon, on a quand même été mis en difficulté au niveau de la structure et défensivement. Même comme tu l'as dit, Nouama avait fait quand même un super match pour sa première et c'était important pour moi de le souligner. Mais il faut quand même pas non plus mettre de côté. Tu vois, Marseille, il y a quand même 2-3 joueurs offensivement qui sont très intéressants. Ils ont deux ailiers qui peuvent quand même en un contre un éliminer et faire des différences. Ça va quand même relativement vite. Même si Aubameyang est un joueur pour moi un petit peu finito, ça reste un joueur qui a quand même une certaine expérience, capable de marquer des buts, même si il est vrai qu'en Ligue 1, je crois qu'il faisait partie du top 3 des joueurs qui avaient frappé le plus au but sans marquer. Donc voilà, moi je ne veux pas qu'on prenne ce match à la légère. Et c'est important que les joueurs soient vraiment, vraiment, vraiment concentrés et qu'à la mi-temps, en fait, on ait pris le large. Parce que mentalement, si tu mènes 2-3-0 à la mi-temps, ça peut vraiment faire une tuerie. Alors que si ça fait 0-0, pour moi, l'aspect émotionnel sur lequel le coach va vraiment insister, notamment parce que physiquement, ils ont quand même 2 jours de moins, plus un déplacement et un second déplacement. Et ben voilà, il faut que le taf soit fait en première mi-temps.
J'entends ce que tu dis et ouais, rentrer sérieux, mais il y a un moment où
t'as coupé la priorité, Dreyas. Il y en a qui attendaient.
Non, calmez, non, mais en vrai, c'est un rejoint, mais de toute façon, Dreyas, tu vas enchaîner assez rapidement, mais tout va dépendre aussi de la structure et comment va être animé, en tout cas, le 11 marseillais. Là, on les a vus en 4-3-3. Moi, je mets pas de côté que. Il y a peut-être moyen aussi qu'ils puissent choisir la sécurité à peut-être venir à 5 derrière ou peut-être à 3 derrière. Ils en ont l'habitude, ils ont eu les joueurs pour jouer. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront mettre le bus, mais tu as des automatismes que tu peux avoir à 5 ou à 3 derrière de cette manière-là. Et je rejoins totalement Kev. Si tu arrives à prendre l'ascendant assez rapidement, que ce soit sur le plan physique, technique en première mi-temps, pour moi tu as toutes les raisons de pouvoir t'imposer très facilement et de te donner en fait ton maximum de chances et de potentiel pour pouvoir t'imposer. Mais là où par contre tu arrives peut-être à un 0-0 ou à 0-1, ce genre de choses, bah là par contre voilà, l'aspect émotionnel va rentrer de leur compte et là l'aspect physique va vraiment rentrer parce que moi je pars du principe qu'avec le 11 qu'on a, se prendre des Dembélé tout le match pendant 65 minutes, 70 minutes, se prendre un Mbappé tout le match, la même chose quand tu fais rentrer peut-être un Barcola ou un Kolo Muani ou peut-être autre chose, au bout d'un moment dans les jambes ça va peser, les déplacements, plus ci, plus ça, donc faut voir, tout va dépendre aussi de la structure et comment va être animé le 11 marseillais. Et voilà, est-ce qu'ils vont avoir la même mentalité à venir nous chercher, voilà, c'est à voir.
Faudra mettre beaucoup d'intensité.
Ouais, mais déjà il y a un truc par rapport à ce que disait Kev, c'est vrai qu'ils ont quelques joueurs devant qui sont rapides, on peut penser à Sarr, on peut penser à Oba, etc. Enfin, il y a Correa, Ndiaye, etc. Mais nous aussi on en a, quoi. C'est ce que disait, c'est à un moment on a quand même Mbappé, on a quand même et s'ils ont quelques certitudes offensives, ils en ont pas des masses défensivement. Notamment au milieu, ça patine, alors qu'ils ont des joueurs qui pourraient constituer un milieu très solide, mais ils ont encore du mal à trouver la structure, et derrière, pour l'instant, ça reste très très faible, Marseille, et face à nos défenseurs, face à nos attaquants, je veux dire, les espaces qu'ils laissent sont réels. Et là où je suis, j'entends hein, le fait d'être à 0-0, avec le Abba Donardo qui va les pousser, la fibre marseillaise, la crise qui est derrière, on va se dépasser, on va aller trouver des solutions, c'est tout à fait possible. Mais concrètement, la fatigue va vraiment commencer à peser en deuxième mi-temps. Les espaces qui sont des espaces qu'ils offrent, ils vont continuer à les offrir. Pour la défense à 5, j'ai du mal à y croire parce que je suis pas sûr qu'ils aient joué comme ça cette saison. Je sais qu'ils ont joué comme ça les saisons précédentes, mais ils ont pas forcément joué comme ça cette saison. Entre les deux, il y a 2 coachs différents. Donc vraiment, c'est à voir, quoi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire quand tu es dans une phase de transition? Et je pense que même s'ils y mettent toute la volonté, même si, etc., il y aura les espaces, il y aura la fatigue. En deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, Lolo, Dembélé qui nous frustre parce qu'il rate beaucoup, mine de rien, pour l'adversaire, il faut se le taper pendant effectivement 60 minutes. Le mec, il va te provoquer. À un moment, tu peux craquer. Et du coup, c'est pour ça que, à titre perso, j'arrive pas à être inquiet si on prend le match par le bon bout. Après, si on commence à être suffisant, si on commence à les laisser jouer, si on commence à leur laisser nous marcher sur les pieds, oui, on va pas s'en sortir. Mais si on prend par le bon bout, l'argument de la patience, pas seulement pour moi, l'argument d'en avoir mis trois à la mi-temps, mais l'argument de la patience permettra aussi de sortir victorieux du match, j'ai l'impression.
Les gars, il y a quelque chose que vous avez mentionné quasiment tous les trois. Vous avez dit, avec leur nouveau coach, ils vont venir avec une mentalité à la marseillaise, ils vont avoir l'intensité, tout ça, ils vont vouloir nous faire mal. Oui, je veux bien, je suis assez d'accord avec vous. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a une donnée qui a un peu changé et je voudrais avoir votre retour là-dessus. On a eu la défaite face à Tourelle. Quand on avait Tourelle sur le banc, on a eu la défaite face à Marseille. Je crois qu'il y en a l'autre, elle est sous Galtier, ouais. Sur Pochettino, je crois on a gagné, c'est bon. Mais ça fait 3 ans que l'effectif, on a un peu l'impression que les Clasicos, c'est le dernier de leurs problèmes qui rentre sur le terrain. Je ne sais pas si vous vous rappelez un PSG-Marseille où à la 93e minute, tu as Messi qui joue à passe à 10 à 50 mètres des buts au lieu d'essayer de faire quelque chose pour qu'on gagne. Là, il y a quelque chose qui a changé, c'est que maintenant, on a Kylian Mbappé qui est toujours performant sur les classicos. À ça, tu peux rajouter Dembélé qui est vraiment supporter du PSG depuis qu'il est tout petit et qui a vraiment la fibre du classico dans le sang. Si Randall y rentre aussi, il va y avoir ça. Petit Barcola, qui est supporter du PSG depuis petit, là, je trouve qu'il y a quand même une identité dans cette équipe et qu'ils ne vont pas se laisser marcher sur les pieds par Marseille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que ça va être comme les saisons précédentes et qu'on va se faire taper dessus dans l'agressivité dès le début et que peut-être après on va marquer, mais qu'il y a un moment dans le match, comme les dernières années, où au début on va se faire manger.
Moi, il y a un truc par rapport à ce que tu dis, je te suis. Je te suis pas, par contre, sur la défaite de Tourelle, parce que c'était un peu une débâcle. En fait, c'était une débâcle tactique, mais pour moi, c'est une anomalie dans le match, parce que j'ai le match dans la tête. Mandanda fait des arrêts sur arrêts, on a des pénalties qui doivent siffler, et puis à la fin, ça part en cacahuète, etc. Pour moi, c'est vraiment une anomalie de fou, alors que. Pour moi, le match de l'année dernière était vraiment un manque de respect dans l'investissement. Tu sentais que bah, les mecs étaient là pour être là, tu vois. Et qu'au final, ils ne représentaient pas du tout ce que c'était Paris. Tu avais l'impression qu'ils ne savaient pas ce que c'était un classico, à part pour un ou deux joueurs qui avaient peut-être sauvé la mise. Mais malgré tout, on a perdu. Donc moi, je pense que là, tu as vraiment une fibre. Tu auras quelque chose sur lequel les joueurs vont se rapporter. On a vu, Lucas a fait une interview là, je crois avec PSG TV, avec le club, où il disait que, voilà, que c'était un match très important, que lui, il l'avait déjà coché depuis un petit moment, etc., qu'il s'attendait à ce que ça soit un combat, et que je pense qu'il va être armé comme ses bonnes performances le font depuis un bon moment avec nous. Donc moi, je me fais pas de soucis sur ça. Vitinha aussi avait fait, lors de la victoire qu'on gagne 3-0, là-bas, il avait fait quelques petites déclarations sur l'intensité et sur la supériorité qu'on avait eue chez eux. Moi, j'ai vraiment pas peur de ça. Ce sera pas un problème d'intensité, ce sera pas un problème d'investissement. Pour moi, je veux juste savoir comment on va réagir dans les points faibles. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être fort dans les points faibles? Est-ce qu'on va être fort dans les moments, dans les temps faibles où on va subir? Est-ce qu'il faudra compter encore sur un Donnarumma comme contre Lyon qui soit sur un piédestal et qui sera intouchable jusqu'à quand? C'est ça pour moi qui va donner la donne. Mais là où dans les derniers matchs, contre Nice, contre Lyon, on a vu à certains moments ça nous a fait défaut, comme on a vu à certains moments ça nous a donné raison. Donc voilà, c'est plus ça qui me fait pas peur, mais j'y pense un peu dans ma tête, quoi.
Kev?
Ouais, bah après, moi j'ai juste rappelé une stat, c'est que Kylian Mbappé titulaire contre l'OM, c'est victoire à chaque fois. Voilà, point.
Ouais, et elle est très véridique cette stat.
Oui, parce que la défaite l'année dernière, il est blessé, la défaite sous Tourelle, il est même pas sur la feuille de match, je sais plus pourquoi exactement, mais voilà, après, franchement, je sais concrètement que voilà, Kylian a toujours répondu présent sur les classicos. Il a toujours été très bon et encore l'année dernière sa titularisation après la défaite en Coupe de France nous fait beaucoup de bien parce que Marseille a voulu réitérer un plan de jeu de pressing individuel, chose qui est impossible quand tu laisses 50 mètres dans ton dos face à un Kylian Mbappé et que tu n'as aucun défenseur capable de le suivre en termes de vitesse et d'intensité. Donc concrètement, faut être objectif. Et je trouve ça dommage en plus parce qu'il avait raté énormément d'occasions. On aurait pu leur mettre, je pense, un score qui n'avait jamais été vu dans l'histoire du football entre un PSG et OM. Donc voilà, mais concrètement, non, moi je pense que le match va être difficile, mais qu'on va le gagner. Point. C'est tout.
Dres.
Ben, pour revenir à ce que tu disais, peut-être que la dimension identitaire, ouais, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très nouveau. Depuis un long moment, il y a des choses à redire hein, dans notre manière de jouer, mais on joue en équipe. Et rien que ça, l'équipe, ça n'a rien à voir avec les équipes auxquelles tu fais référence et aux performances marseillaises auxquelles tu fais référence. Et tu sais, peut-être que effectivement, au niveau identitaire, va y avoir ce match est plus important que les autres. Mais tu vois, par exemple, au niveau d'Enrique, il y aura un côté, ce match est aussi important que les autres. Et donc, je pense que c'est un match qu'on prendra de toute façon au sérieux. Après, je voulais très rapidement réagir à ce que disait Owen, là, que Marseille a une meilleure équipe que Nice. J'en suis pas du tout sûr. Ça va être à démontrer parce que Nice, c'est une équipe qui est très solide, très chiante. Et on l'a encore vu hier avec Monaco. Monaco a loupé deux pénaux, mais il n'y a pas que ça. Et je voulais aussi réagir à ce que disait Owen rapidement. Notre défense va prendre l'eau avec un Skriniar. Je suis désolé, mais pour l'instant, Skriniar Marquis, ça apporte pleinement satisfaction et je vois pas ce que tu trouves à leur dire.
Oui, Malik, mais en fait, ce que je dis, c'est que, contrairement aux années précédentes, du côté PSG, il va y avoir cette donnée-là, parce qu'avant, c'était que côté Marseille. C'était Paris joue son football et Marseille joue, genre, c'est notre match important de la saison. Mais Paris, c'était pas leur match important. Mais là, je pense que ce le sera un peu plus. Ce sera pas le match le plus important de la saison, mais ils vont plus le respecter. Les gars, je profite pendant que vous êtes 157. Je vais vous parler du projet Paris Central Studio. Où, vous voyez, là, le samedi, on est quatre perlins sur la télé, sur votre télé. Nous, on aimerait faire ça en physique. Donc, je vous ai mis un lien en description si vous voulez nous aider à acheter du matos pour qu'on fasse ça en physique. N'hésitez pas, le lien est dans la description, qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on puisse faire du contenu de meilleure qualité. J'ai une question assez philosophique avec ce Paris Saint-Germain. Alors, on va commencer avec Kevzor. Qu'est-ce qui te fait peur avec ce Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que, genre, tu te dis, tout se passe plutôt bien en ce moment, mais qu'est-ce qui est dans ta tête et qui te dit, ça me fait peur?
Notre milieu de terrain.
Je te laisse développer.
Bah, c'est très simple. Pour moi, il n'y a que trois joueurs qui ont le niveau pour jouer titulaire au milieu de terrain. Donc, à partir de là, quand tu joues avec un milieu à trois, si tu en as deux qui sont absents, bah, tu te retrouves dans la merde. C'est... Fabien Ruiz est très gentil, mais n'a pas le niveau du PSG. Carlos Soler, il n'y a que son nom qui apporte du soleil au PSG. Vitinha, je trouve qu'il monte quand même en puissance, mais pour moi, ça devrait être un remplaçant dans ce PSG-là. Un super sub, on va dire, parce que ça reste un joueur qui est jeune, qui a besoin de confiance, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de ce que représente le PSG, et notamment au vu de la ligne offensive et défensive qu'on a réussi à mettre en place en termes de concurrence, de profil, etc. Warren, le problème qu'il y a, c'est que le fait qu'il soit Titi, les gens ne le jugent pas comme tout le monde. Et aujourd'hui, un Warren ne devrait jamais être à cet âge-là titulaire indiscutable. C'est-à-dire que ce joueur-là a joué tous les matchs depuis la préparation titulaire. Il n'a pas eu une seule fois un peu de repos. Et c'est hyper important parce que, et ça j'insiste là-dessus, mais physiologiquement et les joueurs à cet âge-là ont quand même besoin de repos. Il y a quand même beaucoup d'exemples qui font que voilà, à 20 ans, 21 ans, les mecs subissent quelques blessures musculaires ou ont des problèmes physiques récurrents ou réguliers qui font que voilà. Mais j'ai trouvé la rentrée de Kangin très intéressante contre Dortmund, mais on ne l'a pas pendant X semaines. Voilà, Ugarte est très très bon, mais encore une fois, si Ugarte se blesse, comment allons-nous faire? On va mettre Danilo Pereira qui n'est pas capable de mettre l'intensité que Ugarte met, qui n'est pas capable d'aller chercher aussi haut que Ugarte le fait, qui n'est sûrement pas capable de jouer aussi vite que Ugarte le fait. Donc aujourd'hui, il faut être honnête, hein. Nous n'avons pas un milieu de terrain en adéquation avec ce que la défense et l'attaque a sur le papier, que ce soit sur le 11 et sur le banc. Voilà ce qui est problématique pour ma part.
Laurier, qu'est-ce qui te fait peur avec ce Paris Saint-Germain ?
Je te rejoins, Kev, sur le milieu de terrain, même si je vais être un petit peu plus positif, puisque comptablement, on est dans les points, on est bien, on est sur une phase de progression, on est sur une phase aussi de transition. Moi, je n'attends pas à ce que ce milieu-là il puisse écraser tous les milieux d'Europe. Et pour l'instant, il en écrase bon nombre en Ligue 1, même si on n'a pas encore tout joué. Mais en tout cas, on fait mal à beaucoup de gens. Il faut laisser à Enrique le temps, comme il faut aussi laisser le temps à d'autres joueurs de pouvoir s'adapter dans le système, à s'incorporer dans l'effectif. Pour moi, un Fabian Ruiz dans la rotation au même poste que peut utiliser un Ugarte, on l'a vu qu'une fois, deux fois, grand maximum sur 6-7 matchs officiels déjà. Pour moi, c'est très peu. Un Endur, on l'a jamais vu. Un Soler, on l'aura vu. Bon, bref, je préfère pas en parler. Donc, pour moi, il y a des motifs de satisfaction. Certes, il y a des motifs d'inquiétude, mais pas non plus à me dire que, à cause de ça, je commence à flipper ou quoi que ce soit. Non, pour moi, quand je regarde notre milieu, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on produit sur le terrain, on est largement à la hauteur de cet Olympique de Marseille. Et pour moi, on a toutes les qualités pour pouvoir les détruire. Juste Ugarte va leur faire très très mal. Ugarte va faire un pressing auprès de Rongier, ça va très bien se passer. Pour moi, je continue à dire que ce qui pour moi a pêché dans les matchs où on a été, bon, en tout cas on a été en difficulté, pas où on n'a pas été bon puisqu'on a été en difficulté, c'est nos temps faibles, c'est savoir les gérer, ne pas compter que sur Donnarumma, ne pas être trop submergé, que ça soit pas forcément du milieu, parce que je veux bien que le milieu soit pas forcément à la hauteur de peut-être notre défense ou notre attaque. Mais parfois, l'attaque n'a pas forcément. Elle n'est pas exempte de tout reproche dans le premier pressing. Des comportements comme à Lyon, ce que tu disais, Kev, dans les contre-pressings de Dembélé ou même de Mbappé, de ce que moi j'ai pu voir au stade en y étant. Pareil sur ce que j'ai vu sur une petite portion du match contre Dortmund. Donc, contre Nice, pardon. Mais pour moi, je pense que c'est notre capacité à être fort dans les temps faibles. C'est surtout ça. Je pense qu'il faut laisser du temps à Enrique. C'est une équipe qui est en train de se construire. Il va y avoir peut-être des petits raccrocs qui vont se rafistoler peut-être au mercato d'hiver, peut-être que ce sera pour l'année prochaine, mais ça nous permettra de pouvoir maintenir un socle et faire en sorte que ce socle-là il devienne de plus en plus solide. Et avec des joueurs qui sont en devenir, pour moi, je donne les clés à Warren. Si tu es en capacité de jouer, joue, t'inquiète pas. S'il faut que tu te reposes, tu te reposeras. Si tu peux pas te reposer et que tu as la capacité d'évoluer, joue. Si le mec est d'accord et qu'il est OK, je pense qu'il est très bien entouré. S'il fallait souffler ou quoi que ce soit, je pense qu'il y aurait possibilité aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça.
Les gars, n'oubliez pas, à 600 likes, vous avez le bon d'achat Nike. Qui vous sera offert. Donc, pour participer, écrivez le prono de PSGOM dans les commentaires. Et je précise bien dans les commentaires, pas dans le chat. Donc, likez et commentez. Vas-y, Dries.
Pour moi, je suis d'accord avec Kev là-dessus. Un Warren qui apporte sur certains matchs pleine satisfaction. Sur certains matchs, il y a des choses qui sont discutables. Et tu sens, et même, ce n'est pas rendre service à un joueur. Il y a un moment où la concurrence, c'est utile. C'est aussi la concurrence qui te permet de progresser. Et le fait, c'est pareil, hein, quand on parle de Vitinha, on oublie que c'est un joueur qui lui aussi est très jeune, qui n'a pas vécu un très important. Et là où je te rejoins, Lolo, oui, en effet, hein, ça va suffire contre Marseille, mais la question, ce n'est pas juste contre Marseille, c'est sur toute une saison et contre des équipes qui vont être infiniment plus dangereuses que Marseille, avec des noms qui vont être infiniment plus ronflants. Et est-ce que déjà, au niveau mental, ça va être capable de suivre, et ne serait-ce qu'au niveau physique, avec la capacité que tu as à faire tourner, qui pose question. Maintenant, dans un monde parfait, moi, je rejoins Kev. Pour moi, Vitinha est le premier remplaçant. Warren Zaïre-Emery est le deuxième remplaçant. Mais pour moi, ils ne sont pas encore titulaires, pour en tout cas pas titulaires en début de saison. Ils le deviennent au mérite au fur et à mesure de la saison. Un Warren Zaïre-Emery, tant mieux s'il répond présent, tant mieux s'il ne se flingue pas. Mais on prend des vrais risques parce qu'on a un joueur avec un énorme potentiel qu'on expose énormément. et qu'on peut, bah, comme le rappelait Kev, physiquement, est-ce que, comme il n'a pas encore fini sa croissance, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes à un moment ou un autre? C'est une question qui se pose. Et mentalement, est-ce qu'il va franchir toutes les étapes en sachant que inévitablement, il y a certains matchs où il se fait incendier et est-ce qu'il va être capable de répondre présent? Ça pose un problème. Maintenant, moi, ma grande crainte, c'est plus au niveau de la rotation. On a un Enrique qui n'arrête pas de nous dire depuis le début de la saison qu'il n'a que 21 joueurs. Mais si on regarde, alors après, ça s'explique aussi d'une manière logique. Hein. Pour l'instant, il y a vraiment un socle de 7-8 joueurs qui sont là quasi à tous les matchs. Et il n'a pas forcément le choix. Il a besoin de construire un premier effectif. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir cette concurrence? Au milieu, on voit que tu n'as pas forcément la possibilité, mais en tout cas, au moins derrière et devant, est-ce que cette concurrence va jouer à plein? Est-ce qu'il ne va pas y avoir, commencer à avoir trop tôt un 11 titulaire pour les gros matchs et un 11 un peu moins solide pour les matchs où on a besoin de un peu pour les matchs un peu de coiffeur, et j'ai peur que ça se dessine. J'espère que cette peur n'est pas justifiée, parce que moi, il y a un truc que j'adore, c'est une concurrence où c'est tu même les joueurs ne savent pas forcément c'est lequel qui va commencer à chaque match.
Dernier sujet avant de répondre à vos questions, Kev Zor, est-ce que Kang In-Lee est officiellement un milieu de terrain? Est-ce que c'est finalement une autre solution intéressante au milieu, vu que on pensait qu'on était condamné à Vitinha, Emery et Ugarte?
Je pense officiellement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une alternative, très plausible pour concurrencer Vitinha à ce poste. Chose qui pour moi est quand même très intéressante, parce que il est vrai que Vitinha se met beaucoup entre les lignes et vient s'intercaler un petit peu côté gauche aussi, vu que Lucas Hernandez, quand on a le ballon, reste plus en défense centrale et que Mbappé se réaxe. Donc je pense que oui, il a le profil pour y jouer. J'ai trouvé sa rentrée très très intéressante contre Dortmund, notamment sur ses prises de balles vers l'avant, toujours vers l'avant. Et non, je trouve que c'est un joueur intéressant. Après, encore une fois, on verra bien sur une titularisation ce qu'il sera capable de donner. C'est vrai que Dortmund a laissé beaucoup d'espace entre les lignes quand il est rentré. Mais sincèrement, je pense que, et on en avait déjà parlé en amont, je pense que c'est une solution plausible dans ce rôle un petit peu hybride qu'a Vitinha.
Andreas?
Bah, je pense oui, surtout qu'il a ce qui est très intéressant avec ce joueur, c'est sa participation défensive, contrairement à la première. C'est un mort de faim sur un terrain, il court partout. On a encore un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser balle au pied. Même si tu vois qu'il a les qualités, tu as du mal à voir comment ces qualités vont vraiment se mélanger avec celles de l'équipe, s'interfacer avec celles de l'équipe. Mais je pense que devant, là, avec le recrutement, en fait, on a clairement des profils de joueurs de transition. On n'a qu'un seul neuf de surface, mais ce sont des profils de transition. Et un Kang In-Lee, je le vois pas enfin apporter une réponse cohérente en fait par rapport à ce que tu as devant, alors qu'au milieu tu as clairement des manques. Pour l'instant, il a été utilisé essentiellement à ça sur les derniers matchs, enfin sur le dernier match parce que c'est le seul qui pouvait jouer, mais je pense que oui, on est parti pour avoir un Kang In-Lee au milieu en effet.
Et toi, Lauriel?
Ouais, je pense que pareil, je rejoins Kev. Pour moi, grosse alternative, possibilité de pouvoir avoir plus de polyvalence, un mec qui est capable d'occuper le côté droit, le côté gauche, de pouvoir se réaxer un peu plus dans l'axe en tant que numéro 10, ou peut-être de l'insérer en tant que peut-être relayeur, à voir, en tout cas plus en meneur de jeu excentré. Il y a tellement de possibilités, et c'est pour ça que moi je le dis, je le répète, avec le recrutement qu'on a pu faire, même si c'est des joueurs où on dit oui, c'est peut-être encore un peu trop faible pour certains niveaux, etc. Les gars, on est quand même avec un coach qui sait travailler, on en réclamait et qui a de la matière. On a vu un impact, on a vu une patte Luis Enrique, on la voit plus les matchs avancent. Et je pense qu'avec les joueurs qu'il a à sa disposition, il est capable de faire énormément de choses. On a beaucoup de joueurs qui ont une qualité de polyvalence qui est monstre, même si on peut dire que c'est limité peut-être techniquement, peut-être physiquement, peut-être mentalement. Mais il y a de la matière pour travailler. Donc pour moi, Kang In-Lee, il a toutes les qualités pour pouvoir pouvoir être à la fois sur un côté, mais être aussi à la fois une position dans l'axe. Et sa rentrée contre Nice aura tout montré. Et En tout cas, j'en aurais vu très très peu vu du stade, mais ça me donnait envie de continuer à me dire réessaye le prochain match, tu vois.
Mais Lolo, j'entends en fait ton argument qui consiste à dire au milieu, laissons le temps à Enrique, on a quand même une base. Mais même dans cette optique-là, on a un problème de nombre. Quand on a un Ruiz, moi c'est un joueur que j'apprécie, mais un Ruiz, est-ce que tu le comptes vraiment comme un remplaçant à proprement parler? T'as Ugarte qui se casse, on est tous en train de se faire des nœuds au cerveau pour essayer de trouver la solution. Tu as Soler qui était pas mal à Valence, à Paris, il n'a jamais trouvé ses marques et de toute façon, ce n'est pas un joueur qui peut jouer dans un milieu à 3, il n'a jamais joué de cette manière-là. Tu as de toute façon un problème de nombre et c'est un problème auquel il va falloir pallier. C'est-à-dire que tu peux avoir en effet un coach, tu peux ne pas partager les inquiétudes qu'on a avec Kev en fait sur l'utilisation optimale de Vitinha et de Warren, mais le truc c'est que tu peux avoir un coach qui est capable de faire progresser des joueurs, etc. Il y a un problème de nombre. Concrètement, il y a un problème de nombre au milieu. Tu peux pas en faire abstraction, quoi.
Bah, en fait, il y a un problème de nombre, oui. Peut-être dans l'état, oui, mais je te dis, tu as la possibilité d'avoir vraiment beaucoup de... En fait, tu as beaucoup de possibilités possibles, en fait. Enfin, si je me répète, mais au milieu de terrain, bon, tu as Soler, mais Soler, on va dire, je l'enlève. Tu as Ruiz, tu as Vitinha, tu as
Marquinhos.
Ugarte, tu as Marquinhos qui peut monter,
Non,
sachant
non,
que
non,
tu
non.
vas récupérer.
Il ne faut
Mais
pas.
quand même, il a évolué
Non,
à ce
Lolo.
poste, ça reste quand même... Moi, j'ai trouvé, et j'étais retombé sur certains matchs. Et Marquinhos, pour moi, m'avait agréablement très très bien surpris et son adaptation au milieu de terrain, par sa technique, par son impact, par toutes ces choses. Tu as de la qualité, tu as en tout cas des joueurs pour pouvoir travailler. Et c'est pour ça que pour moi, tu as toute possibilité de garder. En fait, tu as Endur que tu n'utilises pas, tu peux avoir
Mais
des joueurs que tu veux chercher.
Endur, c'est méga jeune. C'est pour l'instant, tu vas le voir sur des bouts de match. Endur, c'est pour des titularisations l'année prochaine, en fait. Sur ce qu'on a vu, c'est comme ça que je le sens. Après, quand tu prends le Marquinhos qu'on a maintenant, c'est plus le Marquinhos d'il y a 3 ans. Le Marquinhos il y a 3-4 ans, c'était le joueur qui faisait le plus de transversales et qui avait les transversales les plus précises de tous les clubs européens confondus. Ce Marquinhos n'est plus là. On retrouve enfin un Marquinhos qui est cohérent en défense. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'utiliser au milieu? C'est-à-dire que si tout à coup, tu vois, pour commencer à trouver des réponses au milieu, il faut que tout à coup tu affaiblisses ta défense. Alors oui, hein, t'es en défense, tu auras une réponse. Hein. Tu ressentes Lucas Hernandez parce qu'à partir du moment où il y a Nuno. Mais justement, moi, j'ai envie que les défenseurs savent défendre et se focalisent là-dessus. Et j'ai envie que le milieu ait une cohérence là-dedans. Et j'ai pas envie de commencer à retourner tout dans tous les sens pour arriver à moitié renforcer ton milieu, mais aussi un petit peu affaiblir ta défense. Et c'est
Je te
pas
dis
quelque
oui,
chose qui me
mais
parle.
je te dis oui, mais comme lui aussi, Luis Enrique à l'époque du Barça avait énormément tenté, et c'est lui qui avait fait en sorte d'installer encore un peu plus, par exemple, Mascherano au milieu de terrain, de faire en sorte aussi d'avoir de mettre de la flexibilité entre tous les joueurs. Je te dis pourquoi Marquinhos, pour une simple et bonne raison, c'est que demain tu vas récupérer normalement Nuno Mendes. Je dis demain, mais c'est assez loin. Mais tu vas récupérer dans la saison, en tout cas. Plus rapidement Nuno Mendes, tu vas récupérer un Kimpembe, donc quid de ces joueurs-là, comment tu vas les installer? Est-ce que c'est forcément affaiblir ta défense pour pouvoir aussi rajouter du plus en fait à ton milieu de terrain? Puisque enfin, je te parle pas d'un Kimpembe que tu vas mettre en 6 bas, je te parle pas d'un Skriniar, je te parle d'un mec qui a la qualité, comme tu l'as dit, d'avoir peut-être les transversales les plus précises d'Europe pendant un moment. Je pense que s'il
Oui.
les a eues, il les a pas perdues. C'est juste qu'il est tombé dans un trou pendant 1 an, 2 ans. Ça a été très dur pour lui sur le plan mental. Il est tombé aussi dans des effectifs où il devait être au four et au moulin, à vouloir défendre et à redéfendre pour les autres. Et donc, du
C'est
coup, à
déjà le
vouloir
cas, là.
faire
Hein.
le taf de tout le monde, tu fais le taf de personne.
Mais c'est déjà le cas. Cette saison, c'est le cas. Hein. Il couvre énormément à droite, parce que tu sais, t'es en asymétrique. T'es en
Oui.
asymétrique et t'as un Hakimi qui est rarement là et il couvre et axe et côté, hein, très
Mais je le
souvent,
préfère
Marquinhos.
dans ce rôle-là. Je préfère personnellement, je préfère Marquinhos dans ce rôle-là, qui va pouvoir couvrir les montées d'Hakimi, mais aussi couvrir les errements ou les manques de vitesse défensifs par Skriniar, et plutôt que d'avoir le Marquinhos de l'année dernière, où parfois dès qu'il touchait le ballon, on se disait mais peut-être qu'il va la perdre ou peut-être qu'il va avoir un trou
Bien
mental.
sûr,
Donc c'est pour
bien
ça
sûr.
que en fait, il y a tellement de choses à faire, il y a de possibilités possibles. On ne sait pas ce que est capable de faire Enrique. Moi, franchement, je vous dis, regardez vraiment les compositions que mettait Enrique quand il était au Barça. Il a énormément, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé de joueur, de positionnement de
Et
joueur.
il a perdu son vestiaire à cause de ça. C'est notamment à partir du moment où il a
Son
commencé
vestiaire à
à
cause de
faire
ça, mais ça a été
redescendre, il a fait commencer
il
à faire redescendre Xavi Trauba, que ça a commencé à beugler dans tous les sens.
Oui, Xavi
et
Trauba,
il perd
de
quasi le
mettre
vestiaire à la suite de
investi à
ça. Hein.
son autre position aussi, alors que lui
Oui.
voulait, voulait que son poste à lui. Donc, c'est normal aussi, mais bon, après, derrière, c'est un éternel débat. Mais en fait, j'aime pas. Après, c'est votre avis. De toute façon, tout le monde est libre. Mais je comprends totalement votre avis. Mais en fait, j'ai l'impression en fait qu'avec votre discours, mais je sais que c'est pas ce que vous voulez dire. C'est peut-être moi, je comprends mal. J'ai l'impression en fait que, en fait, on n'a rien. Ou en tout cas, ce qu'on a, c'est trop faible. Et le truc en fait que je veux dire, c'est où
Non,
on met notre curseur par rapport au PSG,
ça
par
c'était les
rapport à ce
années
PSG, où on
précédentes.
le met.
Ça c'était les années précédentes. Là, c'est plus, en tout cas au milieu, le propos, c'est pas on n'a rien. Le propos, c'est insuffisant. Alors que c'est dommage parce que justement sur les autres lignes, mais tu peux pas tout faire en une saison. Avant, c'était incohérent et c'était cassé partout.
Mais c'est
Maintenant,
ça.
devant, tu commences à trouver quelque chose. Derrière, tu commences à avoir une vraie assise. Tu vois, tu parles. C'est pas un malheur que Nuno revienne. Et ah, merci. Reviens vite, s'il te plaît. Et que Kimpembe revienne. C'est pouvoir installer une concurrence derrière. Mais sur le milieu, c'est juste insuffisant. Et puis, il y a cette crainte aussi, cette crainte de jeunes joueurs. Moi, enfin, tu prends Viti, et Warren qui doivent gagner leur place avec des titulaires qui savent qu'il y a des morts de faim qui sont sur le banc, qui vont se battre, qui machin, qui truc, etc., etc. Et qui peuvent, ben, encore plus démultiplier leur progression. La concurrence peut être extrêmement bénéfique. Et il y a ce regret d'avoir des mecs aussi jeunes qui seront autant exploités, plus particulièrement pour Warren, où tu prends le risque de prendre un potentiel titulaire indiscutable dans 2 ans dans n'importe quel grand club européen, de lui faire perdre du temps dans sa progression en l'exposant trop vite, trop tôt. Mais c'est pas genre, ça suffit pas. C'est pas genre, c'est pas bon. C'est juste que ah, c'est dommage d'avoir une ligne où clairement c'est un peu insuffisant, quoi.
Je te comprends. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est par rapport à nos attentes. Nos attentes, on les espère où? C'est sûr que moi, je veux avoir un milieu de la qualité d'un Mbappé, Dembélé, Gonzalo Ramos, Colomouani, Barcola, Asensio, ce que vous voulez, même Messi, Ronaldo, je m'en fous. Je veux avoir un milieu aussi fort, aussi puissant. Mais en fait, où on met nos espérances? Moi, très clairement, comme je le dis, je le répète, je l'ai dit dans mes podcasts. Moi, s'il faut qu'on attende 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on fasse des concessions, qu'on crée d'abord un collectif, un équilibre, pour moi, tout part de la défense. Tu sécurises d'abord ta défense en faisant ce que tu as à faire avec le matériel que tu as en place. Tu sécurises un système, tu te mets une identité de jeu. Et après, tu vas essayer de trouver tes petits trucs qui vont faire en sorte que ton équipe va s'améliorer. Où on met notre curseur? Est-ce qu'on met notre curseur pour que ce Paris Saint-Germain-là et ce milieu de terrain-là puissent concurrencer les Kroos, Modric, Casemiro de l'époque, mais en tout cas les meilleurs milieux de terrain actuels au monde, ou pour pouvoir déjà bien figurer déjà sur la scène européenne, avoir une identité puisqu'on ne l'avait pas et on ne l'a pas eu depuis 3 à 4 ans, qu'on se fait écraser par tout le monde, et qu'à la fin on ne ressort rien, qu'on n'a plus d'émotion. On allait au stade, j'allais au stade, au final pour me dire, bon, peut-être qu'on allait passer, se dire de peut-être qu'on allait passer, j'y croyais même pas. Et c'est ça en fait que je veux dire, c'est est-ce qu'on est dans cette optique-là? Pour moi, je suis dans une optique où je me dis, vas-y, quitte à faire des concessions, quitte à mettre des jeunes, on va les mettre, pour que ça soit nos stars de demain, pour que ça puisse, ces mecs-là qui puissent nous former. Mais
Alors, je
après,
suis
derrière,
d'accord.
on va réussir à, petit à petit, avec un mercato supplémentaire, avec un joueur par là, en récupérant un Xavi Simons, en peut-être aller chercher un Olmo de chez Tonton, d'aller chercher un Odegaard, j'en sais rien, n'importe, mais des joueurs qui peuvent t'apporter une plus-value là où tu n'en as pas cette année. Voilà, c'est tout.
Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a juste l'argument. Après, tu vois, c'est encore une fois, et en effet, il y a le truc de prendre son temps. Clairement, prenons notre temps. On a passé je ne sais pas combien de saisons à essayer de trouver hashtag la bonne solution en un mercato où en fait tu mettais que des gens devant et puis ça y est, tu vas gagner avec des champions cette année. Et que là, on entend une logique un peu plus justement d'équipe et que ça prenne son temps, bah c'est très bien. Après, tu vois, sur cet aspect-là, tu peux quand même exprimer cette frustration d'avoir ce manque au milieu, mais il n'y a pas d'intolérance et d'impatience qui s'exprime là-dedans. C'est juste une légère frustration. Maintenant, là où je te rejoins moins, c'est sur la capacité d'un joueur à se développer et la capacité d'un de la responsabilisation trop précoce de certains joueurs. Tu as certains joueurs, tu prends Kylian Mbappé, tu peux prendre un Pedri, ça coule sur eux. Tu en as d'autres, tu les flingues à les exposer autant et aussi vite. Et d'ailleurs, tu vois, si tu regardes Mbappé, Pedri, c'est pas pareil. Pedri, lui, c'est aliénesque. Mais Mbappé, quand tu regardes sa progression, et d'ailleurs, il a les dents qui grincent, il se casse de Monaco à cause de ça. C'est parce que il a pas assez de temps de jeu à ses yeux, alors qu'il est titulaire dans des matchs, etc. Et sa progression est progressive. Quand tu prends Pedri, il y a une faiblesse en effectif, il est obligé de l'utiliser en début de saison. Enfin, il y a des, et puis le mec, il est tellement bon qu'il reste titulaire. Mais et peut-être que Warren, ce sera le cas, mais t'as pas l'impression que Warren, c'est le cas, parce que Warren, t'as des matchs où il passe un peu à côté. Si on prend par exemple le dernier match contre Dortmund, il est formidable à partir de la 30e minute. Avant la 30e minute, il est là physiquement, mais tu sens qu'avec le ballon, c'est pas encore ça. Il ose pas, etc., etc. Et il y a des, tu vois, c'est vraiment, c'est le paradoxe, c'est tout le paradoxe de ce joueur. C'est un joueur qui est presque formé physiquement, en tout cas dans sa capacité à aller au duel, il est mais juste incroyable. T'as l'impression qu'il a 25-30 ans, j'en sais rien, t'arrives même pas à le définir. Mais il est pas, tu vois, du coup, tu le vois là-dessus, tu as tendance à dire, ah bah c'est bon, il est formé. Mais non, il est pas forcément post-formé sur tous les aspects. Encore une fois, il a 17 ans. Et ce que je veux pas, moi, pour moi, ce que je disais avant le début de la saison, il faut qu'on recrute un mec, pas forcément pour lui prendre la place de manière définitive, mais juste pour le tenser, et peut-être qu'il sera titulaire dans 6 mois. Parce que justement, avec ce bénéfice de la concurrence, de devoir aller gagner sa place, de etc., etc., et j'ai peur que tu repousses le moment où il va devenir vraiment un titulaire indiscutable,
ce que
potentiellement il peut faire.
Il n'y a pas que ça, tu vois. Après, de toute façon, on va clôturer, je pense, ce débat. Mais concrètement, il y a aussi le fait que aujourd'hui, tu as des joueurs expérimentés devant et derrière, mais tu n'en as aucun au milieu de terrain capable de faire en fait, progresser aussi et d'amener certains joueurs en fait à leur prime. Je vais prendre l'exemple type du Real Madrid, en fait, qui au milieu de terrain a réussi à faire en sorte que les jeunes joueurs qu'ils avaient recrutés puissent leur prendre leur place et performent. Camavinga, Tchouaméni et Valverde, parce que Bellingham est arrivé cette année, c'est des joueurs qui en fait ont été mis à côté de Kroos, Casemiro, Modric et ont appris chaque année. On a appris chaque année alors que nous au PSG, on n'a pas ces joueurs-là au milieu de terrain. En fait, il nous en faudrait au minimum un pour permettre en fait à Ugarte qui est quand même un jeune joueur, à Vitinha qui est quand même un jeune joueur, à Warren qui est un très jeune joueur, en fait, de savoir et de gérer temps fort, temps faible, quand est-ce qu'on doit attaquer, quand est-ce qu'on doit défendre, quand est-ce qu'il faut absolument qu'on marque, quand est-ce qu'il ne faut pas qu'on encaisse de but. Et ça, c'est hyper important pour des jeunes joueurs qui aujourd'hui en fait, n'ont pas ce papa, ce patron à côté d'eux capable de les amener en fait, à tirer le plein potentiel de tout ce qu'ils ont fait. En fait. Enfin, ils vont l'apprendre petit à petit avec le coach, avec d'autres joueurs, même s'ils n'ont pas ce poste, etc. Mais en fait, c'est totalement différent. Et ça a été le cas aussi avec le Barça. Enfin, tous les grands clubs fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que tu as toujours des papas à tous les postes qui te permettent en fait, d'amener, de tirer le meilleur des jeunes et de leur faire apprendre certaines choses.
Voilà. Juste pour aller dans ton sens, c'est vrai que...
Mais ouais, non
Tu peux pas être trop long en deux mots, Mix. Ouais.
Non, mais je parle pas de toi, je parle de sujet.
Alors, mais très rapidement, juste un chiffre. Ouais, j'ai fait un calcul, j'ai fait du plus et du divisé par 3. On ne doit pas être nombreux à avoir un effectif où au milieu de terrain, la moyenne d'âge, c'est 20 ans et 6 mois.
C'est bon. Ok. Bon, on va partir parce que ça y est, ça fait quasiment une heure. Kevzor, il m'avait dit qu'il ne restait que 30 minutes.
Je vais y aller, moi. Je vais y aller.
Il est resté plus longtemps. Donc, on va y aller, les gars. Vous n'avez pas assez liké. Donc, aussi, moi, je vais aller traîner avec des gens qui m'aiment parce que vous ne nous aimez pas. Donc, bon samedi à vous. Bon match. Bon PSGOM. Bon Classico. Et rendez-vous pour le débrief dimanche à 22h55. Allez, n'oubliez pas que ici, c'est Paris. Ciao, les gars.
Et posez votre like, les gens.